Ok, bah tu commences. Je sais pas.
On n'est qu'une bande de trolls, diaboliques, sans aucun respect ni aucune considération.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur, le podcast dispensable aux analyses faiblardes, superficielles et inintéressantes, d'après. Notre dernière note sur Apple Podcast, même si les chroniqueurs sont sympathiques. Avec moi, Maximis.
What?
Oui, Maximis. Bah, fallait que je trouve des noms de personnages.
D'accord, c'est pour ça que t'as choisi chez Astérix.
Bah non, Maximis, ça va. Bon, Akias.
Ok.
Freddy Lyon.
Ouais.
Et Hugo Yos.
Ah, bonjour.
Oui, bah pardon, ça va. Alors ça y est, les deux grosses productions de l'année sont terminées. On compte encore les points entre HBO et House of the Dragon et Prime et les Anneaux de Pouvoir. Alors après avoir parlé de leur début, place au bilan. Je donne le pouvoir à Fred pour commencer et ouvrir la discussion. Tu vas nous parler de House of the Dragon.
J'attendais avec curiosité, mais pas une impatience folle. Parce que j'avais déjà lu les bouquins du coup qui étaient assez imbitables en fait parce que très encyclopédique et c'est très très lourd à lire mais bon quand même toujours une curiosité parce que j'adore quand même Goth même presque jusqu'au bout donc voilà et bon l'amorce de la série s'est faite de mon côté plutôt en douceur où je me suis dit ok ça démarre doucement on va voir où ça va en venir ça fait très soap c'est très politique donc c'est chouette parce qu'on retrouve en gros le côté politique qu'on avait au début de Game of Thrones mais là c'était beaucoup plus simplifié parce qu'on se retrouvait juste avec un seul lieu, juste une famille pour les personnages. Donc à suivre, c'était encore plus simple que ce qu'on avait avant. Et puis petit à petit, ça a pris en profondeur. Je trouve qu'ils ont quand même osé certaines choses au niveau de l'écriture, notamment les ellipses. C'était pas facile pour eux, je pense à écrire et ce genre de série sur le long terme. Mais moi, je me suis pris au jeu au fur et à mesure. Je suis parti de pas d'attente et bof à le final est vraiment canon. C'est une première saison que je trouve finalement ultra maîtrisée. Ça ose des choses dans l'écriture à la fois pour les ellipses. Il y a une interprétation de tout le cast qui est absolument dingue. Enfin, je me serais jamais attendu à avoir un Paddy Considine dans un rôle de roi comme ça, le seul personnage enfin positif dans l'univers de Goth et qui s'en va de manière positive, j'ai envie d'une certaine manière puisque voilà c'est un des seuls qu'on aura encore pas la tête tranchée quand même. Après je sais pas si on a droit de spoiler ou pas, je pense. Le seul défaut que j'aurais, que je trouverais à la série pour le moment en tout cas, c'est plutôt du côté de la forme. Parce que certes, il y a quelques jolis plans, etc. Enfin, c'est la photo est des fois affreuse. Je pense à ces nuits américaines qui sont juste horribles et où on voit rien, ou qui sont juste moches, quoi. Je trouve que l'écriture des personnages est fantastique et le fait d'avoir ces ellipses et de passer de leur enfance jusqu'à leur âge adulte où ils doivent prendre le pouvoir et du coup de suivre tout ce qui va les mener dans ce futur duel. Est vraiment vraiment super bien construit et j'ai hâte de voir la suite pour le coup qui va être beaucoup plus sanglante. Moi je mettrais vraiment une bonne note et je suis très très agréablement surpris et plus ça allait plus j'étais dans le truc quoi.
Je peux juste demander, donc Fred, tu penses que l'ellipse est arrivée à point nommé dans le sens où t'aurais pas voulu voir une saison entière par exemple avec les jeunes entre guillemets?
Si, ça aurait été chouette, mais je pense qu'on se serait vite, on aurait vite tourné en rond. Je pense qu'on aurait vite tourné en rond sur ouais, on est amis, on n'est plus amis, on est amis, on n'est plus amis, des trucs comme ça. Et je trouve que du coup, ça accélère l'intrigue. Et s'ils veulent faire tenir toute la danse des dragons sur 4 saisons, comme ils le prévoient a priori, fallait accélérer les choses. Et pour le coup, je trouve que ça s'est fait assez naturellement. Après, il y a le petit jeu, du coup, à chaque saut temporel, de se dire, oh mince, alors qui est qui, au fait? Parce que là, faut retrouver le truc. Mais c'est super bien vu. Et à chaque fois, les changements d'acteurs se font, mine de rien, naturellement. Enfin, je trouve qu'on passe de Millie Alcock à Emma Darcy, hyper naturellement, ça se fait très bien. Je pense que les deux ont dû bien se consulter aussi pour voir leur façon d'aborder le personnage. Et les deux sont aussi charismatiques l'une que l'autre. Je trouve que c'est quelque chose qui est à la fois audacieux parce qu'on l'a, on n'a jamais un saut dans le temps aussi rapide comme ça.
Mais pour revenir aux ellipses, est-ce que tu penses pas que ça aurait été plus fluide d'avoir ces ellipses-là à l'intérieur d'un épisode?
Non. Enfin, si je peux me permettre, pour moi, non. C'est au contraire ce qui a sauvé la série, à mes yeux, cette ellipse, parce que les quatre premiers épisodes, même si on a l'excitation de retrouver Game of Thrones, en tout cas son univers, ils étaient quand même assez mauvais, et même en termes d'écriture, je les trouvais parfois vraiment très très bancales. Bancal. Cette ellipse, j'en ai eu très très peur parce que Stéphane m'a spoilé. Et du coup, j'avais très très peur de ce qui allait se passer pour les personnages parce que je me disais qu'une ellipse, au début, je pensais qu'elle allait être de 26 ans. Je sais plus pourquoi j'avais ça en tête. Bon, elle n'est que de 10, donc tant mieux. Mais j'avais quand même peur que tout ce qui était construit avec les personnages soit complètement cassé, qu'on élargisse un peu trop vite la série, alors que là, vraiment, les quatre premiers épisodes, on reste dans l'ensemble d'un château, quoi. Et pour moi, les épisodes qui ont suivi, même juste l'épisode de l'ellipse, est juste parfait. J'ai vraiment pas grand-chose à redire à la deuxième partie de saison qui mêle à la fois le drame familial et la fantaisie, enfin pas la fantaisie, mais la guerre de pouvoir. Et je trouve, comme Fred, que le final montre extrêmement bien ça, qu'il pose des enjeux plutôt intéressants. En plus, il se permet des grandes scènes, sans vouloir spoiler les scènes du dragon, enfin des deux dragons. Voilà, ceux qui l'ont vu sauront.
Non, Sauron, c'est l'autre série.
Merci.
J'en étais sûr.
On reconnaît qu'elle était bonne. Ouais.
Et je trouve qu'il termine la saison en nous disant ce qui va se passer la saison prochaine, en le faisant de manière très claire, sans qu'on s'attende forcément à un cliffhanger ou autre, mais de me dire, voilà, à partir des 4-5 épisodes que vous venez de voir, c'est le programme qu'on va vous délivrer et c'est le début d'une grande épopée familiale, guerre fratricide. Comme Fred, j'ai vraiment adoré cette saison. J'ai trouvé ça nickel.
Moi, je n'ai pas vu les deux derniers épisodes parce que je me suis arrêtée aux 5 premiers, en fait.
C'est une grave erreur.
Alors, peut-être. Mais en fait, j'ai réalisé à un moment, quand je regardais la série, que je n'avais pas à m'infliger ça. Bon, j'ai dû m'infliger les premiers pour le boulot, mais la suite, je n'avais pas à le faire. D'ailleurs, Numérama a sorti un article là-dessus qui exprime assez bien ce que j'ai ressenti en regardant la série. Je trouve que sous un pseudo, les personnages féminins sont sur le devant de la scène parce que ce sont principalement les héroïnes. Et ben, mine de rien, la violence dans cette série est assez insupportable pour moi, que ce soit de la violence physique dans les rapports sexuels ou par rapport à ce que subissent les femmes en général. Je trouve aussi que l'inceste est glamourisé, plus encore que dans Game of Thrones. Et ok, ça reste une fiction, je veux bien le croire, ok, pas de souci. Sauf qu'en fait, la frontière est trop mince entre cet engouement pour le personnage de Daemon et, si vous voulez, la perception qu'on a de cet inceste. En gros, il est vraiment positif presque. Et du coup, ça me gêne énormément aussi. Et il y a donc tout ça, et puis bon, ce que vous avez dit aussi par rapport à la photo où il y a des épisodes où on voit strictement rien, c'est pas normal ça. Donc je suis d'accord que c'est cool que ce soit plus simplifié dans le sens où il y a moins de personnages, etc. Mais pour moi, il y a trop de thématiques pseudo-malignes, enfin pseudo un peu intellectuelles avec les jeux de pouvoir et tout, mais en fait au final c'est juste un truc un peu morbide pour moi et un peu glauque, voilà.
pour le coup, sur les quatre premiers épisodes, je te rejoins totalement. J'ai eu le même ressenti et j'étais à deux doigts de tout arrêter avant que Stéphane justement me dise qu'il y avait un saut dans le temps. Et je trouve vraiment que la deuxième partie de saison rectifie totalement le tir sur à peu près tout ce que tu as dit. Peut-être pas sur l'inceste, sans spoiler, c'est pas un sujet qui est abordé de manière frontale. On voit que là, ils ont voulu respecter l'univers où, bah, dans cette famille, c'est un peu la tradition de se marier entre frères et sœurs ou entre cousins cousines ou entre oncles et nièces. Ça, ce sujet-là, il est pas vraiment abordé, mais pour tout le reste, vraiment, il rectifie le tir. Il y a plus tant de violence. Il y a même des épisodes sans qu'il se passe rien. Ou quasiment rien.
Waouh, même pas de scène de dénuement. Va dénuement, n'importe
et,
quoi.
Et il n'y a plus quasiment plus aucune scène de sexe sur les quatre derniers épisodes. Certaines ont suggéré, mais toute la partie violence sexuelle vraiment sort de la série. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que je suis resté. Parce que vraiment, je comprends totalement ce que tu dis, et c'est quelque chose qui, dans Game of Thrones, me mérissait le poil. On a compris une ou deux fois pour que vous construisiez un peu le caractère de vos personnages, etc. Mais à un moment, faut arrêter. Et vraiment, là, ils ont, pour le coup, bien redressé la barre.
Bon, bah, ça me rassure un peu. Peut-être que je donnerai une chance à cette fin, alors. Voilà.
Non, mais est-ce que c'est pas dû aussi cet aspect, cette impression d'être glamourisé et tout ça, du fait que, en fait, les acteurs jouent mieux aussi que dans Game of Thrones?
Je trouve pas forcément, pour le coup. Non, pour moi, enfin, notamment par rapport à Matt Smith, il y a une fanbase de base, et voilà, quoi.
L'inceste entre Jon Snow et Daenerys dans Game of Thrones, c'était comme les acteurs, il n'y avait pas beaucoup d'alchimie, en tout cas ça transparaissait pas à l'écran, alors que là, on le sent plus et du coup ça peut-être en effet créer plus de malaise.
L'inceste dans Game of Thrones, c'était, sauf pour ceux qui avaient lu les livres, mais c'était un peu un twist, tu vois. Donc et ça a duré une petite saison et c'était pas, y avait pas de montée en puissance de l'inceste, tu vois, tu le sentais pas dès le début, quoi. Et du coup c'était un peu une révélation plus que... un truc sous-jacent qui arrivait au fur et à mesure des épisodes, donc je pense que il est traité différemment dans God, quoi, et là il est beaucoup plus assumé ici, enfin ouais, ça c'est un peu le new normal, quoi, c'est normalisé un peu dans House of the Dragon, donc et oui, je te rejoins aussi totalement là-dessus, et sur la fin notamment, il y a aussi ils ont une espèce d'obsession sur les accouchements
oui.
Vénère.
Hyper violent, au secours, quoi. C'est genre le pire.
Notamment la fin, à la fin, c'est l'apothéose, quoi.
Ouais, c'est pas la série à regarder pour les femmes enceintes. Hein.
Ah ouais, c'est sûr.
Ah, mais pour la violence, on n'est pas prêt à ce qui vient. Hein. Parce que ce qui va arriver dans les saisons à venir, ça va être pas mal non plus. Hein.
Et t'as mis le doigt sur quelque chose, Hugo. Dans Game of Thrones, l'inceste intervient comme un choc, une révélation, et c'est ce qui fait que ça fonctionne pas, parce qu'on en fait un sujet. Si pour eux c'est quelque chose de totalement normal dans leur univers, on devrait même pas en parler. Et c'est aussi là où ça ne fonctionne pas pour moi dans les premiers épisodes de House of the Dragon. La scène où on découvre le possible inceste, elle intervient aussi comme une révélation. Et on se dit vraiment non, faut plus faire ça. Après, je trouve que dans le reste de la série, vu que ça devient moins un sujet, et que les faits sont établis et qu'on ne revient pas dessus, je trouve que ça passe vachement mieux. La relation entre Rhaenyra et Daemon, elle apparaît un peu plus comme une relation de confiance, un vrai amour. Enfin, c'est étrange, c'est très étrange de dire ça, mais...
Non, mais ça devient plus équilibré parce qu'elle est plus mineure déjà. Mmh. Donc,
oui,
mais donc il y a ce côté-là et ça devient plus équilibré. On voit des gestes de tendresse, des clins d'œil, des trucs comme ça. Je pense à la décapitation où ouais, il y a eu un petit clin d'œil, genre ouais, tu peux y aller, coupe-lui la tête. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui passent beaucoup mieux, quoi.
Et même les personnages féminins en général. Enfin, quand on voit celui de Alicent, j'adore Olivia Cooke et je trouve qu'elle est géniale dans cette saison.
Ouais.
J'ai trouvé son personnage super intéressant parce que à aucun moment elle est vénale. Elle est là pour uniquement prendre le pouvoir. On voit qu'elle a un attachement au roi. Peut-être que c'est un attachement dû au mariage forcé, je dis pas, hein, mais chez elle, il ressort vraiment une humanité que je trouvais qu'on n'avait pas chez une Cersei, par exemple. Et elle tient à ses enfants, elle tient aussi à la paix, c'est juste qu'elle est prise dans un jeu de position et elle choisit délibérément d'y participer, mais c'est pas pour autant que elle va avoir recours à la violence ou autre. Et je trouvais que c'était ultra rafraîchissant d'avoir un personnage qui dure, qui ne soit pas une victime et qui arrive quand même à conserver un peu d'humanité. Et je trouvais que c'est quelque chose qui manquait énormément à Game of Thrones. On l'avait un peu chez Catherine Stark, mais elle a vite disparu.
Donc, non, mais c'est vrai que ces personnages-là sont vraiment en zone de gris. Mm. Enfin, y a très peu de personnages purement méchants, comme il y en a quasiment pas de purement gentils. Mais toutes les zones de gris sont là, et c'est ce qui rend les personnages vraiment complexes et super intéressants. Enfin, comme tu le dis, Alicent, c'est pour moi un modèle d'écriture, parce qu'il y a l'attachement de la mère, il y a cette ambivalence vis-à-vis du pouvoir, il y a son attachement quand même avec Rhaenyra du fait qu'elles ont grandi ensemble. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans la construction de leur caractère, et c'est ce qui les rend vraiment vraiment intéressants. Et pour moi, le seul personnage vraiment méchant et que je vais adorer détester, ça va être son fils. Enfin, oui. Celui qui a plus qu'un œil, il est fantastique, quoi. Le casting est ouf.
Mais oui, c'est vrai que t'as raison sur ce point-là, Fred. Ce sont quand même des acteurs beaucoup plus expérimentés que ceux de Game of Thrones. Enfin, du moins les principaux. Et oui, effectivement, là, ça, on peut pas le nier, ça se ressent, quoi.
Ouais. Et celui qui joue Aegon, je trouve, fait un bien meilleur méchant que Joffrey. À caractère comparable, on va dire, ou position comparable, parce que justement on voit son origin story, et c'est là l'intérêt du saut dans le temps, de l'ellipse, c'est que on voit d'où il vient, on voit ce qu'il a dû endurer, ou alors toute la frustration qu'il peut avoir, et on comprend ses actes et la manière dont il va agir envers d'autres personnages, sans vouloir spoiler, sans l'excuser, mais on comprend. Et c'est, je trouve, ce qui manquait un peu parfois à Game of Thrones, qui est arrivé, c'est quand même arrivé au bout de 8 saisons, on a appris à connaître des personnages et à comprendre leurs actions, mais là, réussir à faire ça sur une saison et que ce soit pas forcément totalement bancal, bravo.
Ouais, bah non, mais c'est ça, d'autant plus que voilà, on s'intéresse à eux dès le départ, c'est ce qui est vraiment intéressant. Et en fait, on est resserré sur une famille aussi. On n'est pas éparpillé un peu partout avec différentes familles aux quatre coins de Westeros. On est vraiment resserré sur les Targaryens qui se divisent en deux clans. Et ça nous permet de nous attarder vraiment sur les différents personnages, même si certains, c'est juste par quelques petites scènes par-ci par-là, mais voilà, ce côté resserré, je trouve, donne aussi plus de valeur au personnage, au jeu des acteurs, et est très bien servi par l'écriture, quoi.
Mais est-ce que justement ce resserrement du récit, ça va pas être, ça va pas niquer un peu le rythme, pas le rythme, mais le renouvellement scénaristique de la série sur les 4 saisons qui vont suivre? Parce que du coup là, en fait, il y a moins, tu vois, ça, c'est moins tentaculaire, c'est sûr. Mm. On a juste la prophétie du Song of Ice and Fire qui plane un peu, tu vois. Mais est-ce que, du coup, si on voit que une famille une guerre civile, enfin une guerre familiale pendant 4 saisons, ça va pas s'essouffler un peu, quoi, tu vois?
Et en plus, tu connais déjà la fin, et c'est ça qui me perturbe. Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt de la série quand tu sais ce qui va se passer pas si longtemps après, vu que c'est genre même pas 200 ans plus tard, quoi?
Bah, faudra voir, pour le côté resserré de la série, il faudra voir comment ils jouent avec les différents clans qui vont rejoindre l'une ou l'autre des parties. Je veux dire, par exemple, on n'a pas encore vu les Stark, alors qu'ils vont arriver après dans la bataille. On a tout juste commencé à voir les Lannister ou les Baratheon. Mais voilà, c'est par petites touches. Faut voir comment ils vont les intégrer. Mais effectivement, je pense qu'on va rester concentré sur nos deux principaux clans de Targaryens. Et à voir ce qui va se passer après, quoi.
Et ils arrivent en fait à construire leur récit autour de la généalogie en fait de cette famille, et comment tous ces acteurs vont se déchirer. Et après, on va élargir, voilà, comme le dit Fred, la fin de saison va élargir les horizons. C'est juste qu'ils ont choisi un point de vue qui est les Targaryens pour ce morceau d'histoire qu'avait écrit J.R. Martin. Donc moi, en soi, à la fin de la saison, en tout cas, pas au début, ça me choque pas qu'on soit focus sur cette famille. Je trouve même que c'est plutôt judicieux de pas nous avoir refait une Game of Thrones en nous présentant plein de camps différents et en voyant comment ils vont interagir. Je pense que ça aurait été beaucoup plus redondant en termes de dynamique de personnages, de même d'histoire en soi. Ça aurait été juste de la bataille pour de la bataille. Là, on on essaye de voir autre chose de cet univers et je trouve que ça fonctionne. Moi, le fait qu'ils normalisent les dragons et que l'élément fantastique ne soit plus une composante de la série, je trouve que ça permet de se démarquer de Game of Thrones et ça se voit encore plus à la fin de la saison qu'au début où ils découvrent les dragons, etc. La fin, c'est beaucoup plus installé.
Transition parfaite pour Le Seigneur des Anneaux, non, j'ai envie de dire.
Il y a des dragons.
Non, bah non, justement, mais genre le côté fantastique est beaucoup plus... Enfin, c'est une véritable série fantastique, contrairement à House of the Dragon, qui est genre Succession, oui. Mais dans Game of Thrones, quoi.
Ah bah c'est pas du tout pareil, on en parlera quand on voudra les comparer, mais de toute façon, Game of Thrones, ça a toujours été un univers de dark fantasy, où c'est le côté généalogique, médiéval qui prend le dessus, alors que... Le Seigneur des Anneaux, c'est de la light fantasy, c'est du voyage et de l'aventure avant tout, quoi. C'est pas du tout le même point de vue sur le genre.
Pas du tout d'accord sur tous les points. C'est-à-dire que, par exemple, moi, tout ce qui est familial, personnage, ellipse, tout ça, pour moi, ça fonctionne pas du tout. Je t'enlève ça, il reste plus rien. Et moi, j'ai envie aussi qu'un univers existe par lui-même et je le ressens pas du tout dans House of the Dragon. Alors, pour contextualiser, Game of Thrones, j'ai jamais vu. Donc, c'était vraiment le premier pas dans cet univers-là. Pour parler avant de l'inceste, au tout début, c'est un peu superficiel. C'est-à-dire que ça mène ça pour choquer un petit peu, pour donner un peu de substance. Et ensuite, avec toutes les ellipses, cet inceste ne sert plus à rien. Donc, il est doublement un problème. C'est-à-dire que tu ne le remets même plus sur la table. Même la bâtardise des enfants, c'est à cause des ellipses, on n'en parle même plus. Alors que ça aurait pu faire peut-être des scènes un peu faciles niveau drame, mais c'est sous-jacent, mais c'est pas le cœur des... Enfin, on l'oublie assez vite. Et... Au niveau de la série, c'est vrai que je n'ai pas grand chose à dire. C'est vrai que ça se suit sans déplaisir pour moi pour une première approche en tant que newbie. Voilà, j'ai suivi, mais les ellipses, j'aurais préféré que ça soit dans un épisode pour vraiment mieux contextualiser, mieux apprécier l'évolution des personnages, mieux être dedans. Parce que là, tu es obligé de rebooter à chaque épisode, savoir c'est qui, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est comme ça.
Chaque épisode se tient super bien tout seul au niveau de l'écriture aussi. Donc ça aurait été bizarre de basculer d'un seul coup au milieu ou à trois quarts d'un épisode, je pense.
Je suis d'accord que le flou, il existe un petit peu après l'ellipse, mais après ça devient quand même assez clair que Alicent a trois enfants. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose qui a bloqué, je trouve. Et puis, enfin, faut avouer, je suis en partie d'accord, hein, quand même. Les quatre premiers épisodes sont quand même très mal écrits du point de vue de se repérer dans un univers, installer des personnages et installer les liens entre eux. J'ai pigé que dalle avant trois épisodes, je pense. J'avais même pas compris de quoi ça allait parler. Donc, sur ce point, je suis d'accord. Je dis juste que après, enfin, il y a quand même après l'ellipse un gros tournant en termes de qualité.
Ouais. Et juste un petit bémol aussi sur celui qui joue Viserys.
Paddy Considine.
Ouais, je trouve que non, il joue pas plus mieux que les autres. Bah, je trouve qu'il est plus aidé par sa situation physique et par le maquillage que par son jeu. Voilà.
Bah,
c'est plus physiquement, pas, ouais, il impose plutôt qu'au niveau du jeu, il n'y a pas non plus 10 000 nuances à avoir pour jouer un mourant. Quoi. Voilà.
Il a quand même moins à faire que Olivia Cook.
Ouais.
Il a moins à faire, mais c'est un rôle qui est pas évident non plus parce que c'est un personnage qui doit être bienveillant dans un monde qui ne l'est pas du tout. Et ça sans passer pour un roi débile non plus. Donc c'est quelque chose qui était pas évident à faire et il y arrive vraiment bien.
Est-ce qu'il y a une date pour la saison 2? Est-ce que c'est l'année prochaine ou c'est
dans
2 ans?
Dans 2 ans, non?
Dans 2 ans apparemment. Ouais.
Ouais, c'est en tournage début 2023 là. Donc,
Ah oui, c'est même pas encore. D'accord. Les anneaux de pouvoir, est-ce qu'on est là aux antipodes d'House of the Dragon au niveau lumière, cadrage, d'acteurs, intrigue, Hugo?
Alors, au niveau lumière, cadrage, comme je disais sur l'épisode d'avant, on sent la moula, quoi. On sent qu'il y a eu des centaines.
Enfin, au début.
Au début, oui. Mais même en termes de photos, en termes même les trucs plus subtils, genre les fonds verts et tout. On sent quand même, ce que je reprochais aussi à House of Dragon, c'était qu'il y avait certaines intégrations, certains fonds verts qui étaient un peu cracra M6, quoi. Donc, ouais. Donc là, pour le coup, j'étais impressionné par la qualité de la photographie, qui est pas trop numérique, mais je sais même pas pourquoi je commence par la photographie, tu m'as lancé là-dessus. Là. Mais qui est pas trop, enfin, qui est pourtant, c'est des grosses caméras numériques, mais du coup, ils arrivent à refaire sortir cet univers fantasy avec le max de techno, quoi. Donc c'est hyper beau, la photographie est hyper belle, les FX sont très bons à quelques exceptions près. Mais voilà, en tout cas, visuellement, on l'avait dit la dernière fois, c'est pour moi, c'est un enchantement de tous les épisodes, quoi.
Tu sens qu'ils ont tourné en extérieur et pas en studio,
ouais,
et que c'est du vrai,
ouais,
quoi.
Ça fait plaisir quand même.
Ça fait plaisir, ouais. Dès le début, hein, tu le sentais, de toute façon, et même les passages à Numenor et tout. Enfin voilà, pour le coup, il y a un changement contrairement à House of the Dragon, mais évidemment, c'est le récit qui veut ça. Mais ouais, il y a une diversité des décors qui est assez, assez impressionnante, quoi. Donc à ce niveau-là, oui, en termes d'immersion, on est là, quoi. Enfin, je suis vraiment dans la terre du milieu. Il y a aucun souci là, à ce niveau-là. Ils ont réussi leur truc, quoi. Pour le reste, on peut dire que c'est une saison un peu pilote, on va dire. Ça ressortit un peu de toutes les critiques que j'ai pu lire, et aussi de mon ressenti, c'est que bah voilà, il faut introduire tout un univers à plein de gens, des gens qui n'ont pas forcément qui connaissent un peu Persona, mais qui n'ont pas forcément les livres. Donc même si tu as 10 épisodes et que les deux premiers étaient déjà très très exposition, la première saison, bah tu peux pas forcément mettre la seconde direct, quoi. Donc on est sur une saison qui du coup prend son temps avec des épisodes d'entre 1h05, 1h15, je sais pas si le dernier dure 1h20, je me souviens plus. Mais du coup, malgré cette durée d'épisode et cette durée de saison, moi je me suis laissé porter par le truc, parce que je suis conquis par l'univers Tolkien, forcément. Mmh. J'ai pas un handicap, on va dire, mais j'ai une tolérance, on va dire, supérieure, quoi. Mais je conçois que, en termes de rythme, on n'est pas encore en vitesse de croisière. Il fallait introduire tous ces personnages, il fallait introduire tout cet univers qui est un préquel, hein, avec quelques libertés scénaristiques au sein des anneaux. Donc voilà, il fallait tout introduire, et en plus ces fameux anneaux de pouvoir, en fait, on les voit à la toute fin. Donc, oui.
Et on en voit que trois.
C'est pas grave, ça, franchement. Oui, justement, ils ont pas leur vitesse de croisière, mais là, je dirais qu'ils ont à peine passé la deuxième, hein, vraiment.
Exactement. Ah, non, mais là, mais du coup, là, on en voit que trois sur les. Combien il y en a, Fred, est-ce que tu sais?
Il y en a neuf.
Dix avec l'anneau unique.
Ah oui, ouais. Bien sûr, oui.
Merde, j'ai perdu au blind test.
Ils ont quand même essayé d'avoir leur petit mystère avec Sauron, Gandalf, tout ça.
Hey, ils n'ont pas dit le nom, on ne sait pas, ok.
Ouais, bon. Tu connais la réplique, tu vois, bon, tu connais la réplique de Gandalf et tout. Donc, ils ont essayé un peu d'introduire des mystères par-ci, par-là, où c'était voilà, un peu ils ont été un peu élucidés très vite, on va dire. Mais je trouve que en fait la grande force de la série, c'est pas forcément dans son scénar pour l'instant, dans son scénario, on va dire, dans son script, mais dans ses dialogues, parce que je trouve que c'est hyper bien écrit, les échanges entre les personnages. C'est ce qui me gardait aussi sur Game of Thrones et House of the Dragon, quand le reste m'ennuyait. Et bah là c'est pareil, je trouve que, et notamment en fait entre les scènes entre Elrond et Durin, qui sont pour moi les deux meilleurs personnages de la série pour le moment, j'ai un grand plaisir à regarder tous ces gens se parler dans une espèce de rhétorique tolkienienne qui m'enchante aussi. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, au niveau des dialogues de personnages, je trouve qu'on est on est vraiment aussi en terrain inconnu. Après pour le reste, j'évoque un peu tout, on pourra en discuter, mais je parlais du visuel, de la photographie. Moi, en termes de réal, je trouve que, je le disais sur Twitter il y a quelques semaines là, mais ils n'ont pas encore trouvé leur Miguel Chaposnik, quoi. C'est-à-dire que pour les
C'était Bayona au début, mais derrière ça descend,
ouais,
vite,
mais
quoi.
En fait, on l'avait évoqué aux épisodes précédents, à l'épisode précédent, mais l'escarmouche, hein, c'est pas vraiment une grande bataille.
J'étais ultra déçu. On se retrouve juste dans un village avec 10 pecno, quoi. Donc,
ouais, mais même ça, je me dis, bon, bah, du coup, c'est resserré un petit peu. Donc, tu peux être un peu créatif dans ta mise en scène et tout. Bah, malheureusement, non, je trouve que ça augure pas que du bon pour les pics qui devraient arriver pour les saisons d'après. Donc, j'ose espérer que le casting, on va dire, de Real, va changer un peu, mais je trouve que pour le moment, en termes de mise en scène pure, on n'est pas là. Pourtant, le visuel est ouf, hein, tout va bien, mais en termes de mise en scène, notamment de l'action et des grandes batailles, j'ai un peu peur. On savait que c'était une saison pilote, mais voilà, moi, je trouvais ça cool, même si gros problème de rythme, j'avais hâte qu'on en finisse et qu'on voit enfin les anneaux de pouvoir, quoi.
Est-ce que c'est pas dû à l'éclatement justement des endroits et des personnages et des intrigues?
Si, ça
donne
ça,
une sensation un peu de vide parce que tout est étalé en fait.
Bah en fait il fallait ça, en fait il fallait le temps, c'est sûr. Hein, là pour le coup, là tu veux la variété, bah là t'en as de la variété. Hein, là c'est un peu lenti, on en parlera, mais c'est un peu lenti House of the Dragon, toi. Donc c'est pour ça que les séries sont complémentaires. Hein, si tu t'aimes pas l'une, tu vas voir l'autre, ou si y en a une qui t'a fait frustrer à ce niveau-là, bah tu vas voir l'autre. Et là du coup t'as toutes les couleurs que tu veux, hein. T'as pas que du gris et du marron, quoi. Donc, à ce niveau-là, oui, forcément, il le disait en interview, la première saison, il y a gros taf d'exposition, quoi. Donc, je leur laisse ça, je suis assez d'accord avec ce qu'il disait en interview. Oui, il y a un défi de présenter tous ces personnages et toutes ces lignes narratives. Je leur pardonne ça, quoi.
Mais alors, on est d'accord que c'est une saison d'exposition, mais on est d'accord que c'était nécessaire aussi, en fait, et que c'est pas mal fait, en fait. Là,
ah oui.
Honnêtement, je suis plus... Enfin, je trouve que tous les personnages sont sympathiques, en plus. Même les méchants sont sympathiques. Voilà. Donc, je trouve que le job est fait. Et comme on sait que derrière, c'est Amazon et qu'ils vont de toute façon avoir je ne sais combien de saisons, enfin, quel est le problème que ce soit lent? Je voudrais bien comprendre, quoi.
Moi, je veux bien des saisons qui soient lentes, mais il faut qu'elles aient quelque chose à dire, quoi. Il faut qu'il y ait un minimum de rythme.
Mais c'est une quête. Tu connais pas l'objet de ta quête, pas forcément.
C'est vrai que les films, il se passait pas grand chose.
Il y a pas de concours, là, je suis d'accord.
Oui,
mais
c'est, pour moi, c'est pas si différent de la communauté de l'anneau. Hein.
Absolument.
C'est pas le point qui m'a le plus gêné dans la saison. Le point qui m'a le plus gêné, moi, justement, c'est l'écriture. Enfin, c'est écrit par des débutants, quoi. C'est hallucinant.
Mais non, je suis pas d'accord. Oui, ils sont débutants.
On a quand même 10 longueurs d'avance.
Tu sens pas que ce sont des néophytes quand même. Hein.
Mais on a 10 longueurs d'avance sur tous les personnages à longueur de temps, en fait. C'est usant. Et la pseudo-révélation du Mordor, mais j'étais plié en deux dans mon canapé, quoi.
On a 10 longueurs d'avance parce qu'on connaît aussi, en fait.
Oh, je suis complètement d'accord.
Pour moi, on est et à la fois habitué à l'écriture de la série et à la fois habitué à l'univers de Tolkien. Peut-être qu'ils ont voulu faire quelque chose d'un peu plus accessible, mais par exemple la création du Mordor, désolé, moi je l'attendais pas. Après j'y suis un peu aussi allé de manière un peu naïve, et malgré quelques problèmes d'écriture en effet sur les premiers épisodes, par exemple les trois derniers épisodes, je suis désolé, mais je sais pas ce qu'il faut pour contenter. Enfin, en termes de spectacle, j'ai trouvé ça super fort. Ils arrivent à tenir le rythme et à ne pas décevoir. Et je leur pardonne leurs erreurs. Enfin,
moi j'ai adoré les premiers épisodes, j'ai adoré, j'étais à fond dedans et j'adore l'univers des Seigneurs des Anneaux et j'avais vraiment envie d'aimer cette série bien plus que House of the Dragon. Et plus ça allait, plus j'étais déçu parce que je trouvais que les personnages devenaient de plus en plus débiles. Et le dernier épisode, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que du coup on a trois prêtresses qui en fait se sont complètement plantées voilà, c'est comment elles sont écrites, ça je sais pas du tout, et c'est très bizarre et tout ça. Quand on a Galadriel qui prend conscience que Halbrand et Sauron, en fait le mec il te balade depuis le début de la saison et tu le vois pas alors qu'il t'avait averti clairement que c'était pas un bon gars.
Non, alors ça, je suis désolée, tu veux pas. Enfin, concrètement, j'avais pas compris pour Halbrand avant presque la fin aussi. Donc, et j'ai pas cherché à savoir. Donc, vu toutes les théories, il y en avait trop. Mais en fait, non, ça, littéralement, c'est le seul point peut-être plausible parce que Galadriel, ça montre aussi qu'elle a gardé un peu une once d'espoir dans le bien et que sa quête, c'est pas seulement où elle ne voit pas que le mal, en fait. Donc d'avoir vu un peu de bien dans Halbrand, je trouve ça complètement normal.
Ouais, non, mais en plus, j'aime bien le personnage, la façon dont il est interprété et tout ça. Là-dessus, je suis pas du tout dans les pseudo-polémiques qui peut y avoir. Enfin, l'actrice est super et que Galadriel ait été une guerrière, carrément. Mais qu'elle se fasse un peu avoir comme ça, je trouve ça vraiment dommage. Et c'est surtout que quand on connais un petit peu l'univers, cette forge des trois anneaux elfiques, elle a rien à faire là, en fait. Parce que du coup, comment ils vont forger les autres anneaux, puisqu'ils sont censés forger les anneaux elfiques après, après qu'ils se soient rendus compte qu'ils se soient fait entuber par Sauron. Donc, est-ce que Sauron va revenir encore sous une forme différente? Il va encore faire passer les elfes pour des idiots après? Je sais pas, mais c'est très très bizarre. Il y a des choses qui sont introduites, on sait pas pourquoi. Le Balrog, si c'est pour le faire intervenir comme ça, c'est juste une grosse blague. Ou c'est juste pour avoir un plan de Balrog dans la bande-annonce pour faire plaisir aux fans. Enfin, il y a plein de choses comme ça où j'ai l'impression de pas savoir à qui la série s'adresse vraiment. Est-ce qu'elle s'adresse aux fans et du coup on leur fait des clins d'œil tout le temps quand même? Ou est-ce qu'elle s'adresse aux néophytes et on leur apprend du coup, le Mordor, voilà comment ça s'est créé, des trucs comme ça. Donc c'est ultra bizarre, et du coup je suis perdu au niveau de l'écriture, au niveau de ce qu'ils veulent faire, au niveau de ce qu'ils ciblent, et après la série est super belle au niveau de la photo et tout ça, et comme on disait, la mise en scène, plus ça va, plus on avance, plus ça pêche, quoi. Enfin, l'assaut dans le village, je me disais, ok, il y a un plan sur la cavalerie qui est canon, et après on se retrouve avec juste 50 gars qui se foutent un peu sur la gueule dans un village, alors que l'enjeu c'est la création du Mordor quand même.
Avec le Aikido elfique aussi.
Mais
Et après, on a la révélation avec le nom qui change sur le plan final, Sausland, Mordor. Là, c'était juste pas possible, alors qu'une bonne ligne de dialogue bien écrite aurait pu être beaucoup plus impactante. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui m'ont vraiment, vraiment dérangé, alors que j'aimerais profondément aimer la série, quoi. Donc j'espère qu'ils vont vraiment rattraper le coup pour la suite, qu'ils vont vraiment avoir appris de leurs défauts sur cette première saison, que ce soit en termes de rythme, de dramaturgie, d'écriture globale, parce que va falloir rattraper le coup quand même.
Je suis d'accord avec vous, donc c'est vrai que la mise en scène, la réalisation pêche vraiment. En revanche, je trouve qu'il y a une simplicité dans cette série qu'on a tendance à oublier avec toutes les séries qu'il y a actuellement. Voilà. Effectivement, c'est juste des gens partis par là. Ils ont des principes de vie, ils ont des valeurs et ils vont essayer juste de les appliquer. Voilà. Et c'est juste ça, et c'est hyper beau à regarder, et ça donne des chills, et parfois tu dis, ah c'est vrai que c'est Elrond quand même, ah, franchement je trouve que ce petit gamin là, il a bien compris l'essence même d'Elrond, tu vois. Et c'est ça, pour moi ça a été que ça à peu près toute la série, où je me suis surprise à hocher la tête en me disant, ah c'est pas faux ce qu'il dit là, et ah j'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est intéressant. Donc c'est vrai que du coup, ce que tu disais Hugo sur toute la philosophie Tolkien, je trouve que ça c'est hyper bien représenté aussi. Voilà.
Pour aller dans le sens d'Aki, j'ai bien aimé le fait que la bataille de l'épisode 6, je crois, se déroule dans un village et non pas je sais pas dans une cité ou autre, et de voir que ça impacte en fait des villageois, et enfin je sais pas, moi je l'ai vraiment pris dans ce sens-là, et pour le coup, les pics étaient quand même au rendez-vous, parce que je me mettais de leur point de vue à eux, et sur ça, je trouve qu'ils ont vachement bien construit leur univers, et que les elfes ne valent pas autant que les hommes ou les hobbits. Enfin, je sais plus si c'est des hobbits.
Ouais, ou les hommes de Numenor qui arrivent, voilà. Aussi, sont pas de simples humains.
C'est ça. Donc sur ce point-là, je trouve ça super. J'ai trouvé ça super.
Mais je trouve que le lore est vachement bien compris. Enfin, c'est des connaisseurs, mais la manière dont ils retranscrivent parfois est un peu bizarre. Je repense à cette histoire des anneaux elfiques, quoi.
Mais parce que je pense que, en fait, d'une, vous avez raison, il y a des problèmes d'écriture et peut-être que les scénaristes n'étaient pas forcément les meilleurs sur le marché. Et de deux, je pense aussi que ça ne s'adresse pas à des tolkienophiles, mais à des gens qui veulent voir du spectacle. Et pour le coup, ils ont vraiment axé leur saison sur ça. Tout ce qui est brodé autour, donc les personnages, c'est vrai que ça pêche, parce que je pense qu'ils ne savaient pas comment l'écrire. Donc, en soi, oui, changer de scénariste, mais il faut garder le même esprit.
Alors, pour contredire un peu, c'est, les deux scénaristes, là, ils ont été choisis parce que, alors déjà, ils ne sont pas connus du tout, mais parce qu'en fait, c'était les plus gros geeks de Tolkien de tous ceux qu'ils ont interrogés.
Oui, j'ai lu l'interview là aussi, c'était marrant. Et ça,
oui, par rapport à ce que voulait faire Netflix,
ouais,
et HBO. Ils
voulaient faire leur Marvel, leur MCU, je sais pas quoi. Ouais. Donc en fait, ouais, ils ont été choisis pour ça, quoi. Donc oui, c'est vrai que la question se pose à qui la série était destinée, quand on sait que ces scénaristes-là sont des mecs qui ont qui sont nés avec du avec Tolkien dans le berceau, tu vois.
N'oublions pas que c'est Amazon, hein. Ils veulent de la thune, ils veulent pas juste rameuter les fans de Tolkien, ils veulent de la thune, donc ils ont quand même dû avoir des contraintes de production qui les ont bridés dans leur créativité, peut-être, mais...
Peut-être, mais après, on n'oublie pas que Bezos, il a tendance juste à dire oui sur un coup de tête aussi, il a dit, allez, on va mettre des milliards là-dedans, et basta, hein. On a tendance à encenser les films, que j'adore, hein, y a pas de souci, que j'adore, mais n'oublions pas aussi que les films, au final, ils étaient quand même vachement décriés par la famille Tolkien, hein, enfin, l'estate, comme ils disent. Donc, au final...
Oui, mais eux, ils voulaient pas d'adaptation du tout, hein, à la base, exactement. De toute façon... Non, mais moi, ce qui m'a gêné aussi, c'est que finalement, on se retrouve avec juste des scènes de, bah, juste des scènes de dialogue, en fait, à 80%. Enfin, on a juste des scènes entre deux personnages à chaque fois. À chaque fois, d'un côté comme de l'autre, on a, voilà, Nori avec Gandalf sans le nommer, on a Elrond avec Durin, on a, voilà, mais à chaque fois, ils marchent deux par deux, on a juste des scènes de dialogue entre deux. Donc, j'ai trouvé ça un peu gênant et que ça manquait d'un. Côté groupe.
Au niveau, tu disais c'est des gens qui marchent à deux, mais au moins eux ils marchent. Dans House of the Dragon, ils restent dans c'est leur clair. Maison et ils parlent. Et
ou ils alors ils sont à d'autres dragons aussi. Hein.
Ouais.
C'est des feignants, c'est des Américains.
Mais après, bon, en même temps, dans toutes les séries, voilà, quand ça parle. Quoi. Enfin,
quelle analyse.
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un univers qui est peut-être un peu trop gros. Dégouline un peu sur toutes les analyses, quoi. C'est-à-dire que on peut pas parler des intrigues, des personnages ou de l'action sans parler. Bah oui, c'est un univers qui veut ça. Donc
ils sont partis d'un matériel qui, enfin matériau, qui ne les aidait pas non plus. Ils devaient un peu remplir les blancs. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi, Tom.
Comme toute série. Enfin, ça, je fais encore l'argument de merde, mais on part de zéro pour tout. Là, on part pas de zéro. Mais on doit construire quelque chose, comme House of the Dragon, on parle d'un bouquin, mais est-ce que, justement, ils sont pas, c'est pas été trop facile, entre guillemets, pour eux, de se dire, bah, on part sur un univers qui est connu, on fait pas trop, comme ça, il y aura pas de sacrilège.
Il y a les fans, mais il y a aussi les ayants droit qui, me semble, ont un regard, assez proche sur la série et qui veille à respecter un peu la volonté ou je ne sais quoi de Tolkien. Ça, plus les fans, ça fait qu'ils sont quand même pas mal bridés en soi et ils vont devoir tenir, je sais plus si c'est 4 ou 5 saisons. Ouais, je peux comprendre que parfois ça peut être un peu étriqué dans l'écriture.
Et niveau acteur, je sais pas si on a parlé, est-ce que ça joue bien, c'est bien incarné?
Oui, mais sans plus, quoi, je trouve. Enfin, c'est
moi,
les personnes.
C'est Elrond qui se démarque le plus personnellement, mais bon.
Moi, je trouve que la nomination de Galadriel est bien transcrite aussi.
Ouais.
Mais après, c'est écrit de telle manière à ce qu'il n'y ait pas non plus à avoir d'incroyables performances. Hein. Ouais. C'est pas une série d'acteurs.
Bah, contrairement au Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de gueule, je trouve.
Ouais. Oui, c'est pour le moment. C'est assez lisse. Même la petite pied velue, pardon, je me suis mutée moi-même, n'est pas dingo, quoi.
Bah, tant qu'il n'y a pas de mort, enfin pas d'événements sopesques comme House of the Dragon, on ne peut pas jauger les performances des acteurs et le...
Bah non, et puis dès que ça devient sopesque, un peu comme l'histoire qu'il y aurait pu y avoir entre l'elfe et l'humaine, c'est pas ouf non plus, quoi. Donc,
oui. Ça, c'est vrai que c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux dans la saison.
Donc, non, c'est pas une série qui, en tout cas, pour l'instant, invite à des performances d'acteurs incroyables. Donc, ça fait le taf. Mais à voir comment ça prendra éventuellement de l'ampleur après.
Et donc, la saison 2 va être très attendue de ce côté-là.
J'ai pas l'impression qu'elle soit hyper attendue. Hein,
non, mais de ce côté-là, de se dire, faut que ça démarre. Sinon, c'est un projet sur 10 ans qui sera un flop. Et de l'argent foutu en l'air.
Non, mais je pense rien que pour hater, tu vois, les gens vont regarder. Donc, ça sera pas un fou.
Là, c'est pareil. En plus, il va falloir attendre 2 ans. Hein.
Bah oui.
Donc, est-ce que les gens seront encore là dans 2 ans en se disant qu'ils ont un souvenir moyen du début, alors que pour House of Dragon, ils auront eu un bon souvenir?
Ouais, tu généralises trop, là.
Ça dépend. On va voir si ça peut se tasser aussi, hein, d'un côté comme de l'autre. Ou ça peut prendre de l'ampleur d'un côté.
On verra. Hein, on s'attendait pas à ce que House of Dragon ait un tel succès aussi, alors que c'était 3 ans après une saison décriée. Hein.
Moins excitant de regarder des elfes et dans des grands paysages que des gens qui couchent ensemble et qui se tuent.
Mais y a, et c'est ça, en fait, dans House of Dragon, désolé, mais en fait, il y a aucun risque dans, pour une série. Il n'y a littéralement aucun risque. Ils se font dans la provoque, ouais, dans les trucs un peu bassopès, comme tu dis. Donc pour moi, en fait, c'est juste une série encore parmi d'autres, presque à la Netflix, sauf qu'ils ont plus de moyens parce qu'ils sont... Enfin, plus de moyens. Plus de liberté parce qu'ils sont sur HBO. Et c'est tout, en fait. Bref, voilà, bye.
Drop the mic.
Est-ce qu'on termine là-dessus ou est-ce que vous voulez encore comparer ou est-ce qu'on a tout dit? Très bien.
Je pense que mais après, après en termes de pseudo-fantasy, j'aurais pu aborder si, mais la troisième saison n'était pas convaincante.
Ah oui.
Et au niveau, parce que Fred, toi, tu regardais à plusieurs le lundi, est-ce qu'il y a une sorte d'émulation quand on regarde à plusieurs? Est-ce que de l'excitation, des cris, des gens qui se sont levés pour faire « ouais ».
Non, pas à ce point-là, mais oui, il y a des réactions sur les histoires de coucherie, sur les accouchements, tout ça. Tu sens qu'il y a un malaise un petit peu chez tout le monde des fois, donc c'est toujours marrant de voir ça. Et voir.
C'était bien de se réunir pour le premier, mais après, est-ce que tu sens qu'il y a eu une perte d'intérêt ou l'intérêt a grandi d'épisode en épisode?
Non, l'intérêt a grandi et ouais. Puis après on se prêtait à ce jeu de qui est qui après les ellipses.
Oui.
Donc c'est bien, on s'entraidait aussi.
Ouais. Mais c'est quand même fou qu'une série arrive encore à faire ça, à réunir les gens pour regarder tous ensemble. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de séries qui le font encore.
Depuis la fin de Game of Thrones. Ouais. Oui. Mais... Là, je pense que justement parce que c'était Game of Thrones, mais. Ouais, genre les anneaux de pouvoir, j'ai rien vu passer là-dessus.
C'est ça, donc pour le coup, ils ont quand même réussi leur pari.
Oui.
Mais après, c'est peut-être que chez Fred. Hein.
Oui,
c'est peut-être les seuls au monde. Genre,
non, pour le coup, je connais deux, trois potes qui ont fait la même chose.
Ah ouais. Et est-ce qu'on en parlait à la machine à café?
Non, par contre, non, mais ça fait longtemps qu'on n'en parle plus à la machine à café.
Pardon. On va fermer les portes des deux royaumes pour le moment. On se retrouvera dans 2 ans. Pour la saison 2, ou peut-être ça va être annulé, on ne sait pas, on ne sait jamais avec tout ça. Merci Fred, Maxime, Aki et Hugo, je n'ai pas repris vos pseudos vu que vous les détestez.
T'as bien fait.
Oui.
Et je vous souhaite bon courage à tous dans vos vies.
Oh, bah, merci, c'est gentil.